Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Toujours dans nos lectures en liberté, donc, ce soir, nous nous retrouvons avec la suite de la première partie du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Un matin, le père Rouault vint apporter à Charles le paiement de sa jambe remise, 75 francs en pièces de 40 sous et une dinde. Il avait appris son malheur et l'en consola tant qu'il put. « Oh, je sais ce que c'est, » disait-il en lui frappant sur l'épaule. J'ai été comme vous, moi aussi. Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul, je tombais au pied d'un arbre, je pleurais, j'appelais le bon Dieu, je lui disais des sottises. J'aurais voulu être comme les taupes que je voyais aux branches qui avaient des vers leur grouillant dans le ventre, crever enfin. Et quand je pensais que d'autres à ce moment-là étaient avec leur bonne petite femme à les tenir embrassés contre eux, je tapais de grands coups par terre avec mon bâton. J'étais quasiment fou, que je me mangeais plus. L'idée d'aller seulement au café me dégoûtait, vous me croiriez pas. Eh bien, tout doucement, un jour, chassant l'autre, un printemps sur un hiver et un automne par-dessus un été, ça a coulé brin à brin, miette à miette. Ça s'est en allé, c'est parti, c'est descendu, je veux dire. Car il vous reste toujours quelque chose au fond, comme qui dirait, un poids, là, sur la poitrine. Mais puisque c'est notre sort à tous, on ne doit pas non plus se laisser dépérir, et parce que d'autres sont morts, vouloir mourir. Il faut vous secouer, monsieur Bovary, ça se passera, venez nous voir. Ma fille pense à vous de temps en temps, vous savez, et elle dit comme ça que vous l'oubliez. Voilà le printemps bientôt. Nous vous ferons tirer le lapin dans la garenne pour vous dissiper un peu. » Charles suivit son conseil. Il retourna au berceau. Il retrouva tout comme la veille, comme il y avait 5 mois, c'est-à-dire. Les poiriers, déjà, étaient en fleurs et le bonhomme Rouault, debout maintenant, allait et venait, ce qui rendait la ferme plus animée. Croyant qu'il était de son devoir de prodiguer au médecin le plus de politesse possible à cause de sa position douloureuse, il le pria de ne point se découvrir la tête, lui parla à voix basse, comme s'il eût été malade, et même fit semblant de se mettre en colère de ce que l'on n'avait pas apprêté à son intention quelque chose d'un peu plus léger que tout le reste, tel que des petits pots de crème ou des poires cuites. Il conta des histoires. Charles se surprit à rire. Mais le souvenir de sa femme lui revenant tout à coup l'assombrit. On apporta le café, il n'y pensa plus. Il y pensa moins à mesure qu'il s'habituait à vivre seul. L'agrément nouveau de l'indépendance lui rendit bientôt la solitude plus supportable. Il pouvait changer maintenant les heures de ses repas, rentrer ou sortir, sans donner de raison. Et lorsqu'il était bien fatigué, s'étendre de ses 4 membres tout en large dans son lit. Donc il se choya, se dorlota, et accepta les consolations qu'on lui donnait. D'autre part, la mort de sa femme ne l'avait pas mal servi dans son métier, car on avait répété durant 1 mois « Ce pauvre jeune homme, quel malheur !» Son nom s'était répandu, sa clientèle s'était accrue. Et puis il allait au Berthault tout à son aise. Il avait un espoir sans but, un bonheur vague. Il se trouvait la figure plus agréable en brossant ses favoris devant son miroir. Il arriva un jour vers 3 heures. Tout le monde était au champ. Il entra dans la cuisine, mais n'aperçut point d'abord Emma. Les auvents étaient fermés. Par les fentes du bois, le soleil allongeait sur les pavés de grandes raies minces qui se brisaient à l'angle des meubles et tremblaient au plafond. Des mouches sur la table montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond, dans le cidre resté. Le jour, qui descendait par la cheminée, veloutant la suie de la plaque, bleuissait un peu les cendres froides. Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait. Elle n'avait point de fichu. On voyait sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur. Selon la mode de la campagne, elle lui proposa à boire quelque chose. Il refusa, elle insista, et enfin lui offrit en riant de prendre un verre de liqueur avec elle. Elle alla donc chercher dans l'armoire une bouteille de curaçao, atteignit 2 petits verres, emplit l'un jusqu'au bord, versa à peine dans l'autre, et après avoir trinqué, le porta à sa bouche. Comme il était presque vide, elle se renversait pour boire. Et la tête en arrière, les lèvres avancées, le cou tendu, elle riait de ne rien sentir, tandis que le bout de sa langue, passant entre ses dents fines, léchait à petits coups le fond du verre. Elle se rassit et elle reprit son ouvrage, qui était un bas de coteau blanc où elle faisait des reprises. Elle travaillait le front baissé. Elle ne parlait pas. Charles non plus. L'air passant par le dessous de la porte poussait un peu de poussière sur les dalles. Il la regardait se traîner et il entendait seulement le battement intérieur de sa tête avec le cri d'une poule au loin qui pondait dans les cours. Emma, de temps à autre, se rafraîchissait les joues en y appliquant la paume de ses mains qu'elle refroidissait après cela sur la pomme de fer des grands chenets. Elle se plaignait d'éprouver depuis le commencement de la saison des étourdissements. Elle demanda si les bains de mer lui seraient utiles. Elle se mit à causer du couvent. Charles de son collège, les phrases leur vinrent. Ils montèrent dans sa chambre, elle lui fit voir ses anciens cahiers de musique, les petits livres qu'on lui avait donnés en prix et les couronnes en feuilles de chêne abandonnées dans un bas d'armoire. Elle lui parla encore de sa mère, du cimetière, et même lui montra dans le jardin la plate-bande dont elle cueillait les fleurs tous les premiers vendredis de chaque mois pour les aller mettre sur sa tombe. Mais le jardinier qu'ils avaient n'y entendait rien. On était si mal servi. Elle eût bien voulu, ne fût-ce au moins que pendant l'hiver, habiter la ville. Quoique la longueur des beaux jours rendît peut-être la campagne plus ennuyeuse encore durant l'été. Et, selon ce qu'elle disait, sa voix était claire, aiguë, ou, se couvrant de langueur, tout à coup traînait des modulations qui finissaient presque en murmures quand elle se parlait à elle-même. Tantôt joyeuse, ouvrant des yeux naïfs, puis les paupières à demi closes, le regard noyé d'ennui, la pensée vagabondant. Le soir, en se retournant, Charles reprit une à une les phrases qu'elle avait dites, tâchant de se les rappeler, d'en compléter le sens afin de se faire la portion d'existence qu'elle avait vécue dans le temps qu'il ne la connaissait pas encore. Mais jamais il ne put la voir en sa pensée différemment qu'il ne l'avait vue la première fois, ou telle qu'il venait de la quitter tout à l'heure. Puis il se demanda ce qu'elle deviendrait, si elle se marierait, et à qui. Hélas, le père Rouault était bien riche. Et elle, si belle. Mais la figure d'Emma revenait toujours se placer devant ses yeux, et quelque chose de monotone comme le ronflement d'une toupie bourdonnait à ses oreilles. « Si tu te mariais pourtant, si tu te mariais !» La nuit, il ne dormit pas. Sa gorge était serrée, il avait soif. Il se leva pour aller boire à son pot à eau, et il ouvrit la fenêtre. Le ciel était couvert d'étoiles. Un vent chaud passait. Au loin, des chiens aboyaient. Il tourna la tête du côté des Berthaud. Pensant qu'après tout, l'on ne risquait rien, Charles se promit de faire la demande quand l'occasion s'en offrirait. Mais chaque fois qu'elle s'offrit, la peur de ne point trouver les mots convenables lui collait les lèvres. Le père Rouault n'eût pas été fâché qu'on le débarrassât de sa fille, qui ne lui servait guère dans sa maison. Il l'excusait intérieurement, trouvant qu'elle avait trop d'esprit pour la culture, métier maudit du ciel, puisqu'on n'y voyait jamais de millionnaire. Loin d'y avoir fait fortune, le bonhomme y perdait tous les ans, car s'il excellait dans les marchés, où il se plaisait aux ruses de métier, en revanche, la culture proprement dite avec le gouvernement intérieur de la ferme lui convenait moins qu'à personne. Il ne retirait pas volontiers ses mains de dedans ses poches et n'épargnait point la dépense pour tout ce qui regardait la vie, voulant être bien nourri, bien chauffé, bien couché. Il aimait le gros cidre, les gigots saignants, les glorias longuement battus. Il prenait ses repas dans la cuisine, seul, en face du feu, sur une petite table qu'on lui apportait toute servie, comme au théâtre. Lorsqu'il s'aperçut donc que Charles avait les pommettes rouges près de sa fille, ce qui signifiait qu'un de ces jours on la lui demanderait en mariage, il rumina d'avance toute l'affaire. Il le trouvait bien un peu gringalet, et ce n'était pas là un gendre comme il l'eût souhaité, mais on le disait de bonne conduite, économe, fort instruit, et sans doute qu'il ne chicanerait pas sur la dot. Or, comme le père Rouault allait être forcé de vendre 22 acres de son bien, qu'il devait beaucoup aux maçons, beaucoup aux bourreliers, que l'arbre du perçoir était à remettre. « S'il me la demande, se dit-il, je la lui donne. »
Fenêtre en attendant, je ne sais quoi.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Madame Bovary, suite. À l'époque de la Saint-Michel, Charles était venu passer 3 jours au Berthaud. La dernière journée s'était écoulée comme les précédentes, à reculer de quart d'heure en quart d'heure. Le père Rouault lui fit la conduite. Il marchait dans un chemin creux, il s'allait quitter, c'était le moment. Charles se donna jusqu'au coin de la haie, et enfin, quand on l'eut dépassé, « Maître Rouault, murmura-t-il, je voudrais bien vous dire quelque chose. » Ils s'arrêtèrent. Charles se taisait. « Mais contez-moi votre histoire, est-ce que je ne sais pas tout ?» dit le père Rouault en riant doucement. « Père Rouault, père Rouault, balbutia Charles. Moi, je ne demande pas mieux, continua le fermier. Quoique sans doute la petite soit de mon idée, il faut pourtant lui demander son avis. Allez-vous-en donc, je m'en vais retourner chez nous. Si c'est oui, entendez-moi bien, vous n'aurez pas besoin de revenir à cause du monde, et d'ailleurs, ça la saisirait trop. Mais pour que vous ne vous mangiez pas le sang, je pousserai tout grand l'auvent de la fenêtre contre le mur. Vous pourrez le voir par derrière en vous penchant sur la haie. » Et il s'éloigna. Charles attacha son cheval à un arbre. Il courut se mettre dans le sentier. Il attendit. Une demi-heure se passa. Puis il compta 19 minutes à sa montre. Tout à coup, un bruit se fit contre le mur. L'auvent s'était rabattu, la cliquette tremblait encore. Le lendemain, dès 9 heures, il était à la ferme. Emma rougit quand il entra, tout en s'efforçant de rire un peu, par contenance. Le père Rouault embrassa son futur gendre. On se remit à causer des arrangements d'intérêt. On avait d'ailleurs du temps devant soi, puisque le mariage ne pouvait décemment avoir lieu avant la fin du deuil de Charles, c'est-à-dire vers le printemps de l'année prochaine. L'hiver se passa dans cette attente. Mademoiselle Rouault s'occupa de son trousseau. Une partie en fut commandée à Rouen et elle se confectionna des chemises et des bonnets de nuit d'après des dessins de mode qu'elle emprunta. Dans les visites que Charles faisait à la ferme, on causait des préparatifs de la noce, on se demandait dans quel appartement se donnerait le dîner, on rêvait à la quantité de plats qu'il faudrait et quelles en seraient les entrées. Emma eut, au contraire, désiré se marier à minuit. Au flambeau. Mais le père Rouault ne comprit rien à cette idée. Il y eut donc une noce où vinrent 43 personnes, où l'on resta 16 heures à table, qui recommença le lendemain et quelque peu les jours suivants. Les conviés arrivèrent de bonne heure dans les voitures, carrioles à cheval, char à banc, à deux roues, vieux cabriolets sans capote, tapissières à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages, les plus voisins, dans des charrettes, où ils se tenaient debout en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secoués dur. Il en vint de 10 lieues, loin, de Goderville, de Normanville et de Cany. On avait invité tous les parents des deux familles, on s'était raccommodé avec les amis brouillés, on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt, la barrière s'ouvrait. C'était une carriole qui entrait, galopant jusqu'à la première marche du perron. Elle s'y arrêtait court et vidait son monde, qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montres en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture, ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle et qui leur découvraient le cou par derrière. Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient incommodés par les habits neufs. Beaucoup même étrennèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence. Et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion rallongée pour la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, rougeaudes, ahuries, les cheveux gras de pommade à la rose, ayant bien peur de salir ses gants. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Suivant leur position sociale différente, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes. Bons habits entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Redingotes à grandes basques flottant au vent, à collet cylindrique, à poches larges comme des sacs. Vestes de gros drap qui accompagnaient ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière. Habit-veste très court ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux et dont le pan semblait avoir été coupé à même un seul bloc par la hache du charpentier. Quelques-uns encore, mais ceux-là bien sûr devaient dîner au bas du bout de la table, portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et la taille attachée très bas par une ceinture cousue. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Tout le monde était tondu à neuf. Les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasé de près. Quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez ou, le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs et qu'avait enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques roses toutes ces grosses faces blanches épanouies. La mairie se trouvant à 1/2 lieue de la ferme, on s'y rendit à pied. Et l'on revint de même, une fois la cérémonie faite à l'église. Le cortège, d'abord, comme une seule écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne, le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Le ménétrier allait en avant avec son violon empanaché de rubans à la coquille. Les mariés venaient ensuite, les parents, les amis tout au hasard, et les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à se jouer entre eux sans qu'on les vît. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer, et alors, délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuf sur la tête et les parements de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary, mère. Quant à Monsieur Bovary, père, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté et, y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archet afin que les cordes grinçassent mieux, et puis il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon pour se bien marquer la mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. C'était sous le hangar de la charreterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots, et au milieu un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau-de-vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table présentaient dessinés sur leur surface unie les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu, figurant un temple avec portique, colonnade et statuette de stuc, tout autour dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartier d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte, où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturelle en guise de boule au sommet. Jusqu'au soir, on mangea. Quand on était fatigué d'être assis, on allait se promener dans les cours ou jouer une partie de bouchon dans la grange, puis on revenait à table. Quelques-uns, vers la fin, s'y endormirent et ronflèrent. Mais au café, tout se ranima. Alors on entama des chansons, on fit des tours de force, on portait des poids, on passait sous son pouce, on essayait à soulever les charrettes sur ses épaules, on disait des gaudrioles, on embrassait les dames. Le soir, pour partir, les chevaux gorgés d'avoine jusqu'aux naseaux eurent du mal à entrer dans les brancards. Ils ruaient, se cabraient, les harnais se cassaient, leurs maîtres juraient ou riaient, et toute la nuit, au clair de lune, par les routes du pays, il y eut des carrioles emportées qui couraient au grand galop, bondissant dans les saignées, sautant par-dessus les maîtres de cailloux, s'accrochant au talus avec des femmes qui se penchaient en dehors de la portière pour saisir les guides. Ceux qui restèrent au berceau passèrent la nuit à boire dans la cuisine. Les enfants s'étaient endormis sous les bancs. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Flaubert, Madame Bovary, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.